et Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J, réveillez l'informé qui est en vous.
Radio Écoutez Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Il est 10h, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau 10-11. Et tout de suite, on retrouve le journal d'Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous.
Alors, à la une de l'actualité en Israël, le 223e jour de guerre contre le Hamas et 5 soldats de Tsahal tués.
Ça s'est passé à Jabalia, une zone réinvestie par l'armée israélienne après que les bataillons du Hamas s'y soient reformés. Ces soldats ont été victimes de ce qu'on appelle des tiramis. Un char opérant aux côtés des parachutistes dans le camp de Jabalia a tiré 2 obus sur un bâtiment où ces soldats étaient rassemblés vers 19h hier soir. Il y a eu également 8 blessés et donc ces 5 morts. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
5 soldats israéliens de la brigade des parachutistes sont tombés au combat dans le nord de la bande de Gaza hier. Il s'agit du capitaine Roy Be'er Yaakov, 22 ans, officier de combat du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Gilad Aryeh Boym, 22 ans, originaire de Karné Shomron, combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Daniel Chemu, 20 ans, de Tibériade, combattante du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Ilan Cohen, 20 ans, de Carmiel, combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, et du sergent Bezalel David Chachoua, 21 ans, de Tel Aviv.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, l'enquête est en cours sur les circonstances exactes de ce drame.
Dans le nord, cette nuit, Tsahal a frappé Baalbek au Liban.
C'est la frappe la plus profonde dans le pays du Cèdre depuis le début de la guerre, à 82 km de la frontière, en riposte à l'attaque d'un drone lancé par le Hezbollah qui a frappé une zone de basse Galilée dans la soirée. Tsahal a aussi frappé un site de lancement de roquettes, celui d'où une quarantaine de missiles avaient été tirés plus tôt hier, et une attaque au couteau dans la soirée à Jérusalem. Ça s'est passé devant un commissariat. Le terroriste a pu être éliminé avant de tuer ou de blesser qui que ce soit.
Au chapitre politique, le gouvernement israélien divisé sur l'après-guerre à Gaza, Benny Gantz, le ministre du cabinet de guerre, apporte son soutien à Yoav Gallant.
Il dit la vérité et le rôle des dirigeants d'Israël est de faire ce qui est juste pour le pays à tout prix, souligne Benny Gantz dans un communiqué. Le ministre israélien de la Défense a rejeté toute gouvernance civile ou militaire d'Israël à Gaza après la guerre et il a même publiquement remis en cause les déclarations de Benjamin Netanyahou sur la question. Le Premier ministre lui a répondu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'il ne voulait ni de Fatahstan ni de Hamastan. À Gaza, Itamar Ben-Gvir, de son côté, le ministre de la Sécurité, tenant de la droite nationaliste israélienne, appelle à ce que Yoav Gallant soit limogé.
Une délégation israélienne au Caire, elle est sur place pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Égypte sur la question du terminal de Rafah.
Suite à sa prise de contrôle par Israël pour éviter que le Hamas ne fasse main basse dessus, le Caire a stoppé tout envoi d'aide humanitaire à la bande de Gaza. L'Égypte, opposée à l'opération de Tsahal à Rafah dans le sud de Gaza, compte même soutenir l'Afrique du Sud dans ses démarches contre Israël devant la Cour internationale de justice. Selon de hauts responsables au Caire, le traité de paix avec Jérusalem, pierre angulaire de la stabilité régionale, est en grand danger.
En Nouvelle-Calédonie, l'instauration de l'état d'urgence, des renforts du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place.
Les indépendantistes refusent la réforme constitutionnelle qui doit permettre aux Calédoniens, notamment issus de l'immigration asiatique, de voter aux élections provinciales. Les violences sur place ont déjà fait 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. Il y a aussi des pillages, des vols, des révoltes et des agressions. Les habitants sont terrés chez eux dans la crainte. Une centaine de policiers ont déjà été blessés. L'état d'urgence a donc été décrété et il est rentré en vigueur à 20h hier soir. Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, ce matin sur Radio J avec Christophe Barbier.
Quelle que soit votre position, une minorité ne peut pas tenir la population en frayeur par des applications tyranniques, la violence comme on le voit depuis plusieurs jours. Je pense évidemment à ce gendarme et à sa famille, ce gendarme qui a été tué. Je pense évidemment aux blessés. Je pense évidemment à toutes ces familles qui ont été attaquées, notamment les familles des responsables politiques qui portent le texte à l'Assemblée nationale. On voit que leurs familles ont été séquestrées, menacées, puis protégées par le RAID et le GIGN. Moi, je qualifie ces situations d'absolument inacceptables.
Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Toutes les interviews politiques de Christophe Barbier, c'est à 7h45 sur Radio J tous les matins et à retrouver notamment sur notre compte YouTube.
En Grèce, à Athènes, la police a arrêté 3 manifestants anti-israéliens devant l'ambassade d'Israël.
Ils avaient attaqué les policiers qui sécurisaient les lieux à coups de pierre. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Ces émeutiers avaient participé à une manifestation se présentant comme pro-palestinienne avec 2500 participants.
Et aux États-Unis, le président d'une université d'État de Californie du Sud se met en congé.
Celle de Sonoma. Il venait tout juste d'accepter un boycott universitaire d'Israël dans le cadre d'un accord avec des étudiants se présentant comme pro-palestiniens. En plus, Mike Lee venait aussi d'accepter la création d'un conseil consultatif d'étudiants pour ce qu'ils avaient appelé la justice en Palestine.
Merci Eva Soto. On vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres.
Le 10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Gutmann.
Les rendez-vous de l'écuge.
Lise Gutmann.
Radio J.
Les rendez-vous de l'écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous aujourd'hui Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'écuge. Bonjour Jean-François.
Bonjour Lise, avec toujours autant d'enthousiasme.
Oui, je sais, j'adore. Puis j'adore aussi la casquette orange, l'écharpe orange. On sait très bien ce que ça veut dire. Et même Johann Sfar l'avait remarqué et en a été ému. Bravo Jean-François. Et tout d'abord, quelques nouvelles justement de ce qui vient de se dérouler à l'écuge pour cette fameuse décade que tu présentais en solo la semaine dernière.
Oui, tu m'as beaucoup manqué.
Oui, voilà, je t'ai abandonné lâchement, mais t'as vu, je suis revenue.
Oui,
voilà.
Avec bonne mine. Ouais.
Merci.
Je ne citerai que quelques points saillants. Nous avons eu dimanche soir un RF Yom HaZikaron, une cérémonie exceptionnelle de Yom HaZikaron organisée avec Jean-Charles Zerbib de l'Organisation Sioniste Mondiale, le chanteur et pianiste Shai Alon et le répertoire de toutes les musiques consacrées à ces jours solennels, les poèmes ou textes lus par Revital Shloman dans une ambiance totalement israélienne en présence de beaucoup d'Israéliens de Paris. Et nous avons tous chanté ces chants de circonstance qui sont quand même une partie non négligeable du répertoire israélien.
Bien sûr. Et puis ce fut le tour de cette soirée bleu et blanc, très attendue, avec Johann Sfar, lundi soir.
Alors lundi soir, c'était la présentation du carnet « Nous vivrons », le livre qui est un pavé de 450 pages en noir, bleu et blanc, en faisant salle comble, et une retransmission dans une autre grande salle tellement on avait de peuple, on savait plus où poser les gens. Et l'animation de Chaim Musicant a permis à Johann Sfar de sortir littéralement de véritables fulgurances. Une magnifique soirée qui s'est terminée par une séance de dédicace où on a atteint le Guinness des records. Plus de 2 heures de dédicace,
oh là là.
Parce qu'il dessine un chat et en plus de son de sa petite dédicace. Les gens ont patiemment attendu
mais
2 heures
sûr.
Pour avoir leur nous
dessin.
Vivrons à eux. Et c'était très, 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 très émouvant.
Alors, quand tu parles de fulgurance, un exemple?
Non, parce que c'est dans le contexte, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est des phrases qui ont beaucoup de sens, qui ont beaucoup de force. Et j'invite vraiment ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu à lire ce pavé de 450 pages, parce que c'est réellement dans un état d'esprit un peu, je le dis parce que c'est pas construit et structuré comme on l'imagine, c'est au hasard des rencontres qu'il a lui-même suscité ou qu'il a découverte des échanges sur la situation depuis le 7 octobre, et cette somme énorme de relations, de contacts, de rencontres, ça dit quelque chose de l'état de la situation et en France et en Israël, puisque beaucoup de ces rencontres se sont faites en Israël.
Bien sûr. Alors, cette soirée, elle a été un peu l'aube de Yom HaAtzmaout, mais mardi, c'était Yom HaAtzmaout à l'Écuge, à l'israélienne.
Alors, je vais commencer avec la...
Ben, c'est pas l'aube, c'est plutôt le crépuscule.
Ouais, non, voilà. Mais c'était le vrai Yom HaAtzmaout à l'israélienne. Alors, moi, je dis, il y avait des tas de choses conceptuelles très intéressantes, mais avant tout, il y avait un grand buffet, falafel, pitot, terrina, salade israélienne.
T'as trop mangé, Jean-François.
Voilà, dimbosbash. Oui, mais moi, j'ai que regardé.
Bien sûr.
Ça, c'est pas...
Ouais, non, je plaisante.
Alors, dimbosbash, l'une représentant le drapeau israélien, l'autre brings them home, colorié par enfants et adultes israéliens, à quatre pattes, accroupis, allongés, des jeux partout, la joie des retrouvailles. On leur avait même installé une grande pelouse artificielle pour qu'ils soient à la déchet dans la salle haute de l'écuge.
Il manquait que le barbecue.
Voilà, mais là, on pouvait pas, mais il y avait tout le reste.
Voilà.
Alors, avec nos amis de Habayit HaYehoud, à Israéli, l'organisme officiel de l'ambassade d'Israël pour la communauté israélienne à Paris, les tsofim, les scouts israéliens, les familles, les jeunes, les enfants, des groupes partout dans la salle haute, sur le rooftop, jusqu'à pas d'heure. Ça y est, maintenant nous avons une vraie communauté israélienne à l'écuge, et Gadi Bgui, notre directeur, a pu présenter pas moins de 5 activités régulières pour les Israéliens de Paris, dont des activités qu'on démarrera à la rentrée, parce qu'il y a tellement de volontaires pour participer à ces activités qu'on est obligé d'en ajouter d'autres pour qu'on puisse encore élargir. On a une vraie communauté israélienne maintenant, une vraie communauté
israélienne. Ils sont bienvenus dans le studio de Radio J. Alors, on applaudit à tout rompre et on reprend maintenant, Jean-François, le fil des activités avec Classique à l'Écuge.
Oui, la fameuse saison Classique à l'Écuge, Marion Grange, soprano, et Michael Levinas au piano, un cycle de mélodies de Robert Schumann sur les poèmes d'Aldebert de Chamisso, cycle de mélodies de Michael Levinas sur les poèmes de Paul Celan, etc. C'est un très 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 beau programme qui se passe en étant éclairé à la bougie, qui donne une ambiance incroyable. Moi, à chaque fois, je suis bluffé par l'effet produit toutes les lumières éteintes et l'éclairage à la bougie. C'est des fausses bougies, bien sûr, pour des raisons de sécurité, pour pas que la baraque prenne feu.
Mais c'est une ambiance extraordinaire.
Voilà.
Je l'ai vécu, je confirme, je ne peux que vous inviter. En plus, dans cette ambiance si intime, si particulière, à venir participer, toutes générations confondues.
Et c'est convivial parce que le 22 mai à 20h démarre le concert. Mais dès 19h, le bar est ouvert.
Voilà.
Donc, ça permet de passer
boire
un moment avec ses amis.
Oui, on se fait un apéro.
Petit apéro avant le concert. Ça vaut la peine d'être ajouté au petit plaisir du concert aussi.
Alors, on parle maintenant vernissage d'une expo de la plus brûlante actualité. Et ça sera jeudi 23 mai à 19h, Jean-François.
Alors, une expo de Richard Koenigsmann qui s'appelle 7-10-2023, larmes aux yeux, larmes à l'épaule, c'est tout dire. C'est-à-dire que les larmes et porter larmes, 6 mois après la tragédie du 7 octobre, journée marquée par un acte de barbarie terroriste que tout le monde connaît, qui a endeuillé Israël, Richard Koenigsmann...
Et pas que le monde, surtout pas qu'Israël.
Nous aussi, bien sûr. Et cette expo de Richard Koenigsmann cherche à exprimer l'ineffable douleur, la perte, mais aussi la résilience et l'espoir émanant de ce jour tragique, c'est-à-dire le combat à nouveau pour l'existence, pour la pérennité d'Israël. Il y a énormément d'auteurs dans le catalogue, on les citera pas tous, mais on va citer aussi que dans la seconde partie de soirée sera présenté l'ouvrage Figure du mal, sous la direction de et avec Michel Gad-Volkovitch. Cette exposition, ce n'est pas simplement un hommage aux victimes du 7 octobre, un manifeste pour un avenir où l'art, le savoir et l'éducation forment les piliers d'un monde plus juste. Je citerai quelques noms parmi les personnes qui participent. Frédéric Ancel, Philippe Val, Éric Marty, Georges Bensoussan, Jean-Pierre Winter, Claude Birman, Patrick Bantman, Izzy Morgenstern, Sandrine Schwartz, Franklin Roski, Francine Kaufmann, Daniel Siboni, Pierre-André Taguieff, Ilan Grelzamer, Denis Charbide. Donc une richesse incroyable de participants autour de cet événement. Je vous le rappelle donc,
23 mai
à 19h, voilà. Le vernissage, et évidemment dans la foulée, la poursuite de l'exposition.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine à l'Institut Elie Wiesel ?
Alors, toi et moi, on partage une passion pour l'activité qui est menée de main de maître par Sylvia Usan à Nogent.
Oui.
Elle mérite un coup de chapeau. Et donc, cette fois-ci à Nogent, c'est le campus le plus important de l'Institut Elie Wiesel. Einstein à Berlin, de 1914 à 1932, par le professeur Dominique Bourrel, historien et philosophe, spécialiste de l'Allemagne. Donc, ça vaut la peine d'être là. Entrée est libre, mais elle est sur réservation. Alors, je donne quand même le nom. Vous pouvez, sinon, vous allez sur la communauté de Nogent et vous allez retrouver le lien. Ça se fait sur WizEvent, Campus Val-de-Marne 2023-2024. C'est très intéressant de participer avec Dominique Bourrel à l'exploration de la vie et de l'héritage d'Einstein dans la capitale allemande, ses liens avec le monde juif berlinois.
Voilà, à ne pas rater, c'est à l'Institut Elie Wiesel. Alors,
pas oui. De lundi de Wiesel cette semaine,
bien
c'est
sûr.
La Pentecôte.
Oui.
Mais, deux cours qui démarrent.
Voilà, alors quel cours, Jean-François ?
Alors, Philippe Zard, La judéité cryptique de Franz Kafka, une lecture de ses nouvelles. C'est la troisième série sur ce thème. Il s'agit d'interroger la part juive dans l'œuvre de Kafka. C'est très important parce que elle est centrale dans cette œuvre, dans ses emprunts aux sources traditionnelles de la Bible, de la Haggadah, du Talmud ou à la condition juive moderne. Alors, elle a lieu les 14, 21, 28 mai, 4 juin de 18h à 19h30, vous aurez remarqué que le 14 mai, c'est déjà passé, mais ça ne change rien si vous inscrivez à la totalité du cycle, vous avez la possibilité de revoir la séquence du 14 mai qui est en replay.
Voilà, alors un second cours également.
La transmission transgénérationnelle des traumatismes de la Shoah pour les descendants de victimes juives. L'histoire ne s'est pas arrêtée et la sidération s'est transmise aux générations suivantes. Comment la soigner ? Le 15, donc dès ce soir, le 22, le 29 mai et le 5 juin, de 19h à 20h30, on est concerné au premier chef. Ma chère Lise, toi et moi, on est parmi ces gens-là.
Oui, mais je pense que ouais, j'ai pas besoin d'être soignée sur ce thème.
Et nous, on se soigne en étant dans l'action permanente. Mais effectivement, Nathalie Zaidé propose des pistes pour ceux qui ont besoin d'être assistés dans ce traumatisme.
Alors, parlons Ulpan. Maintenant, l'été arrive à grands pas. Et Ulpan d'été, notamment, Jean-François.
Alors, Ulpan Kites, la langue hébraïque et la société israélienne nous intéressent. Vous êtes au bon endroit. L'EQG est le principal centre d'enseignement d'hébreu avec la méthode moderne de l'Ulpan. Et puis donc, on fait ça, nous, depuis les années 70 quand même. On a un peu de bouteille en la matière.
Je pense que mon père a été un des premiers, des premières années à faire l'Ulpan Kites.
Absolument.
Oui.
Donc, un cours débutant, un cours niveau moyen, un cours avancé. Et ça a lieu les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h30 à 13h pour un total de 45 heures. Et toujours au mois de juillet, du 1er au 31 juillet, deux cours de conversation en ligne pour les niveaux 1 et 2. Les lundis, mardis et mercredis de 19h à 21h, ça c'est donc le soir, 30 heures de cours. Et par ailleurs, un cours de niveau débutant et faux débutant qui auront lieu en ligne du 1er au 30 juillet, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 19h à 21h30, vous voyez la diversité des cours qui vous sont proposés.
En fait, c'est très pratique pour les gens qui travaillent beaucoup toute l'année, mais qui ont envie de faire un immense pas en hébreu, et donc ils peuvent quasiment rattraper un an de cours qu'ils n'ont pas pu prendre en un mois. Donc c'est ça l'objectif de l'Ulpan d'été, de l'Ulpan Kaïts, et c'est pour ça que c'est si important. Pour tout ce programme, un site
ecuge.fr, ecuge.fr.
Un téléphone, Jean-François.
Le 01 53 20 52 52.
Et l'adresse.
Le 119 rue Lafayette, comme d'habitude, Paris 10e, mais rappelez-vous qu'une partie des activités a lieu en ligne, donc il n'y a pas besoin de se rendre sur place.
Voilà.
Vous pouvez faire ça avec vos pantoufles de chez vous.
En pyjama, allez, parlons hébreu en pyjama. Tiens, c'est un concept à découvrir.
Tu viens d'inventer un nouveau concept, on va te suivre.
Voilà, c'est l'écuche qui m'inspire. Merci Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec toujours autant de plaisir.
Au revoir.
Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez Le Dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor ? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Radio J. Le rendez-vous d'actualité juive. Et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Laurent Cohen-Couda pour un nouveau numéro dont la une est 7 mois après. Quelle stratégie ? Une question que se posent les rédacteurs d'actualité juive et à laquelle peut-être Laurent va tenter de répondre. Bonjour Laurent.
Bonjour,
on attend
Lise.
Alexis, il est dans les bouchons parisiens, c'est un euphémisme.
Il n'a pas le permis, mais il est dans les bouchons, donc on va attendre un petit peu. Voilà.
D'accord.
Alors c'est une question qu'on continue de se poser, parce que je crois que la question se pose même au niveau de la gouvernance en Israël. Et il commence à y avoir des dissensions d'ailleurs pour le présent et pour l'après. On se projette déjà, il y a des dissensions, c'est pas évident déjà en interne au niveau politique. On a vu Yoav Gallant qui a répondu à Benjamin Netanyahu en parlant justement qu'il refuse après le Hamas une gouvernance civile ou militaire à Gaza. Il n'a pas complètement tort, ça pourrait être effectivement compliqué pour Israël. Après, l'organisation est très compliquée parce qu'éliminer des structures effectivement, ou des hommes, c'est une chose, et encore, ils sont encore un petit peu loin du compte aujourd'hui, Israël. Éliminer une idéologie, ça va être un petit peu plus compliqué. La position également de nos alliés comme les Américains, on a vu, c'est compliqué avec la perspective des élections début novembre. La position de Biden est un petit peu bancale. On a vu également Al-Sissi, alors c'est pas un allié propre, mais pas forcément un ennemi, voilà, c'est un médiateur. Et qui a du mal à se positionner, surtout avec l'avancée à Rafah d'Israël, qui est un petit peu une ligne rouge, on va dire,
bien
pour
sûr.
L'Égypte, et qui ne veut absolument pas. On parle rarement de l'Égypte, d'ailleurs, entre parenthèses, mais les murs de séparation entre, donc, pour expliquer aux gens qui ne connaissent
bien
pas
sûr.
La géographie, il y a quand même une frontière entre Gaza et l'Égypte.
Oui.
Donc voilà, Rafah avec des murs et des murs sur plusieurs couches.
Très hermétique, il faut le dire.
Exactement. Donc ça, on parle que de la frontière avec Israël et des blocus, mais c'est idem. Et une Égypte qui refuse d'accueillir le moindre Palestinien.
Bah,
donc ils ont peur avec ce déplacement de population. Donc ça donne une situation évidemment un petit peu ambiguë. Et voilà, on ne sait pas trop où on va pour l'instant. Exactement. Ce que nous dit d'ailleurs dans une très belle interview de Raphaël Jérusalemi. C'est vrai que quand on lit, on est un petit peu, il est un petit peu alarmiste, on va dire, voilà.
Jérusalemi
est un petit peu alarmiste. On parle même pas de, vous savez, quand on interviewe des gens, on se méfie parce que beaucoup ont il y a des messages subliminaux dans une perspective politique où certains se projettent déjà sur l'après en se disant, on va se débarrasser de Netanyahou, on va essayer de refaire un gouvernement sans de gauche, etc., une coalition.
Oui.
Donc beaucoup se projettent, donc des fois, il faut un petit peu mesurer les propos
bien
de chacun. Jérusalem est un petit peu alarmiste malgré tout, mais bon, voilà.
Laurent Cohen-Couda, et les Arabes israéliens dans tout cela?
On s'est posé la question, c'était intéressant de se poser la question. On a vu un petit peu Déjà, le postulat de départ, c'est la position bon, des musulmans en France. Alors, évidemment, c'est jamais la vision, n'est jamais binaire.
Bien sûr.
C'est jamais une généralité. Beaucoup, d'ailleurs, je voyais un passage de musulmans qui parlaient sur Radio J en condamnant complètement le Hamas. On sait qu'il y en a. Bon, on a vu, malgré tout, dans les manifestations contre l'antisémitisme, pas beaucoup de musulmans. On a vu les réactions aussi, la Grande Mosquée de Paris, au début, qui remettait un petit peu en question les chiffres de l'antisémitisme, comme si les juifs ne pouvaient pas être victimes. C'est comme si ce rôle-là était réservé à certains.
Bien sûr.
Et donc, c'était un petit peu ambigu. La question, moi, j'étais en Israël, je ne vais pas détailler, mais voilà, j'étais à Neve Shalom, là, enfin, plusieurs jours en Israël, dont un passage à Neve Shalom, dans le village judéo-arabe. Donc, il y avait une image de paix, très beau. Et puis après, au fur et à mesure, en posant les questions à cette dame palestinienne, qui est née en Syrie, qui vit en Israël, mais bon, qui se présente comme palestinienne, voilà. Du coup, ça se tendait un petit peu. C'est-à-dire que son propos était un petit peu moins évident. Quand on parlait de l'argent qu'il reçoit, elle nous dit que c'est pour faire les hôpitaux. Bon, voilà, nous, on n'est pas naïfs, on lui a rappelé qu'on était journaliste, avec Nelou Cohn, d'ailleurs. Donc voilà, on lui a rappelé tout ça. Donc, c'était intéressant de voir aussi la position des Arabes israéliens. Alors, c'est assez complexe. Il y a 20% de la population, faut-il le rappeler quand même pour ceux qui nous répètent apartheid, attire l'arigot, 20% de la population israélienne, donc on parle quand même de 2 millions de personnes, sont donc arabes, ils vivent avec les mêmes droits, avec en paix, ils vivent tranquillement, vous leur demandez d'aller dans un autre pays, j'ai parlé aussi avec eux parce que c'est bien aussi LFI qui se déplacent sur place pour voir ce qui se passe, mais me parle avec eux, ils sont très heureux et pour rien au monde ils n'iront dans un autre pays musulman qui entoure, ils sont dans une démocratie, ils le disent eux-mêmes, alors bien entendu beaucoup condamnent le Hamas, mais un peu en silence, ils sont dans une position ambiguë, beaucoup font
profil bas. Ils sont inquiets, ils sont peut-être un peu menacés, dans l'œil du cyclone.
Oui, ils ne sont pas menacés par Israël, attention.
Par Israël.
Ils ne sont pas
menacés par Israël, au contraire, ils sont menacés par.
On a vu hier une manifestation, les gens avec keffiyeh des Arabes israéliens qui, pour la Nakba, donc ce que nous on appelle le Masmaout, pour eux c'est le drame absolu, c'est la Nakba, dans l'université de Tel Aviv. Et ils étaient là, ils faisaient leur.
Ils avaient le droit de manifester sans problème.
Voilà, exactement.
Donc c'est important tout ça. Évidemment, on en parlera plus longuement dans le prochain numéro d'Actualité juive, ainsi que de ce qui s'est passé à Paris avec les tagages.
Terrible. C'était terrible. Les mains rouges qui sont un symbole. Encore une fois, faut arrêter. À la base, leur discours c'était de dire Israël a du sang sur les mains. Non. On se rappelle des mains en sang lorsque deux ou trois, je me rappelle plus. Israéliens s'étaient fait attraper, etc. Ils avaient été, des conditions épouvantables. Oui. Et puis, fièrement à la fenêtre, le sang des Israéliens
bien sûr,
sur les mains.
Oui.
C'est de ça dont on parle et sur des symboles.
C'était en 2000, je crois.
Exactement. Exact. Je crois que c'est juste avant la deuxième intifada.
Oui.
Mais du coup, voilà, de mettre ça sur les murs, faut pas nous prendre pour des.
Et
pour
puis
des
pas tanches, n'importe quel mur. Bref.
Exactement.
Ça, ce sera la semaine prochaine.
Exactement.
Alors, quelques mots quand même. Sur l'Eurovision, Laurent.
Ben oui, parce qu'on a l'Eurovision a toujours été politique.
Oui.
On voit toujours les votes.
Mais
alors,
cette année encore plus.
Ben oui, on voit les votes entre la Serbie et Croatie. Dès qu'il y a une guerre, etc., on voit qu'on donne pas les 12 points. Alors, on a vu qu'aucun jury ne s'est mouillé en donnant 12 points à notre petite Eden Golan qui a été.
Qui est une héroïne. Moi, je le dis. Voilà, pour moi, c'est une héroïne.
Vous avez raison.
Il y en a pas souvent, il y en a pas beaucoup, mais elle l'a été chantée comme elle l'a fait sous les huées. C'était incroyable.
Ce qui est incroyable, c'est on a suivi au fur et à mesure, évidemment. Moi qui n'ai pas suivi l'Eurovision depuis Abanibi au Bonnébé.
Oui.
Ça commence à remonter, hein.
Je crois qu'on est dans le même cas.
Je suis pas fan de, ce type de programme.
Oui.
Mais là, j'ai été mobilisé.
Et là, on a voté et tout.
Mais là, Motsé Shabbat, en rentrant de la choupe, boum, c'était Eurovision, on voit les points, on était passionnés, j'avais l'impression de voir un match de foot. Et en fait, du coup, on voyait les points. Et le vote du public est symbolique, qui est extraordinaire. Parce que c'est le public. Alors même s'il y a une mobilisation des juifs,
Ça donne de l'espoir.
C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même 15 pays, je crois, sur 25 qui ont donné le maximum de points, 12 points. D'autres ont donné 10 points, 8 points.
Mais je trouve
ce qu'elle a fait. Ils l'ont entraîné à chanter sous les huées. C'est quand même. Et on a vu l'antisémitisme alors désinhibé. Et puis les autres candidats, en plus d'une émission qui ressemble quand même à Sodome et Gomorre.
Oui.
Aujourd'hui, c'est le wokisme en plein.
On est d'accord.
C'est absolument délirant, quoi. Les non-binaires, les trucs, l'autre là, avec les cornes de diable, l'Irlande et puis tous les pays qui étaient pas contents qu'Israël soit là. Voilà, faut arrêter avec
la
guerre.
On l'entend, la Eden. Oui. On l'entend. Cette formidable Eden. Alors, beaucoup de choses dans le numéro d'Actualité juive, beaucoup d'infos absolument passionnantes. Moi, j'ai lu l'entretien avec Hadas Jaoui Calderon, dont les enfants ont été otages.
Ils ont été libérés.
C'est épouvantable. Il faut lire ce qu'elle raconte parce que vraiment on comprend beaucoup
c'est
de choses.
C'est un courage. Je vais vous dire en deux mots. C'est, alors. Son ex-mari, le père de ses enfants, est toujours là-bas. Elle fait le maximum. On a rencontré à Kikaratoufim des familles d'otages. C'est terrible. C'est chargé. On ne savait pas trop quoi leur dire, à part leur dire que tout le peuple d'Israël est avec eux. Oui. Voilà, on essaie de faire une vraie redoute, une unité.
Bien sûr.
Et pour tout ça, on souhaite la libération de nos otages. Dans quel état, je ne sais pas. Et
on
c'est là
pas.
Où la mission est très compliquée.
Oui, voilà. Exactement. J'ai halluciné avec quand Gaza s'invite dans un sujet d'examen
médecine.
De médecine. Je l'ai relu trois fois tellement je me disais, c'est pas possible.
Mais Yarabi, tweeté là-dessus, qu'il faut voir les résultats. Là, ça devient absolument n'importe quoi.
Voilà. Et puis, bon, beaucoup d'articles de fond, des années. Analyse. C'est passionnant. On soutient Actualité Juive et surtout, merci. On s'abonne actualitéjuive.com parce que si on ne s'abonne pas, bien on sait que c'est très compliqué. Merci beaucoup. Bravo.
Merci, Lise. Merci
pour
infiniment.
Tout cela, Laurent Cohen-Couda. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Même heure, même studio.
Merci.
Au revoir.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, le 223e jour de guerre contre le Hamas et 5 soldats de Tzal tués. Roy Bet Yaakov, 22 ans d'Eli. Gilad Arye Boim, 22 ans de Carnei Shomron. Daniel Chemu, 20 ans de Tibériade. Ilan Cohen, 20 ans de Carmiel. Bezalel David Chachouar, 21 ans de Tel Aviv. Ils ont été victimes de tirs amis à Jabalia hier soir. Un char opérant aux côtés des parachutistes dans le camp de Jabalia a tiré deux obus sur un bâtiment où ils étaient rassemblés vers 19h. L'enquête est toujours en cours. Dans le nord, cette nuit, Tzal a frappé Baalbek au Liban. C'est la frappe la plus profonde dans le pays du Cèdre, à 82 km de la frontière, en riposte à celle d'un drone lancé par le Hezbollah qui a frappé une zone de basse Galilée. Tzal a aussi frappé un site de lancement de roquettes du Hezbollah. Au chapitre politique, le gouvernement israélien divisé sur l'après-guerre à Gaza. Benny Gantz, le ministre du cabinet de guerre, apporte son soutien à Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a rejeté toute gouvernance civile ou militaire d'Israël à Gaza après la guerre et il a publiquement remis en cause les déclarations de Benjamin Netanyahou sur la question. Le premier ministre lui a répondu qu'il ne voulait ni de Fatarstan ni de Hamastan à Gaza. Une délégation israélienne au Caire, elle est sur place pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Égypte sur la question du terminal de Rafah suite à sa prise de contrôle par Israël pour éviter que le Hamas fasse main basse dessus. Le Caire a stoppé tout envoi d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Aux États-Unis, le président d'une université d'État de Californie du Sud se met en congé. Il venait tout juste d'accepter un boycott universitaire d'Israël dans le cadre d'un accord avec des étudiants se présentant comme pro-palestiniens. En Nouvelle-Calédonie, l'instauration de l'état d'urgence, des renforts du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place. Les indépendantistes refusent la réforme constitutionnelle pour permettre aux Calédoniens, notamment issus de l'immigration asiatique, de voter aux élections provinciales. Ces violences ont déjà fait 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. Pillage, vol, révolte, agression. Les habitants sont terrés chez eux. L'état d'urgence est entré en vigueur à 20h hier soir.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Radio J.
L'étoile et le jasmin.
Maya Naoum, bonjour, bienvenue. Je laisse toujours courir un peu le générique historique.
Oui. Et on va essayer d'avoir l'entièreté du générique parce qu'il est trop beau.
Oui.
Serge va mettre l'entièreté bientôt.
Ah, c'est super. Alors, on a une invitée aujourd'hui, non des moindres. On reçoit Shoshana Boukobza pour son livre « Les femmes d'Auschwitz-Birkenau » paru aux éditions Flammarion. Maya, la parole est
bonjour
à toi.
Shoshana,
bonjour.
Bonjour Lise. Oui, voilà, je suis très contente et fière de vous recevoir parce que j'ai été bluffée complètement par votre livre. On croyait tout savoir, non pas on croyait tout savoir, mais
on pense qu'on sait
tellement de choses, qu'on lit tellement de choses sur Auschwitz-Birkenau. Et là, on a l'impression en lisant votre livre qu'on ne savait rien. Alors de quoi je parle quand je dis on ne savait rien? C'est que c'est le point de vue de ces femmes, c'est-à-dire toutes les actions des femmes d'Auschwitz, toutes l'héroïsme, tous les petits gestes, tout ça des femmes d'Auschwitz, ben on connaissait pas. Vous réhabilitez certaines femmes, beaucoup de femmes. Il y en a qu'on connaissait, bien sûr, comme Malaz, on la connaissait, mais vous réhabilitez énormément de femmes. Et moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est ça, c'est-à-dire comment on était toujours du côté du récit des hommes, sans vouloir faire de féminisme de bas étage, mais c'est vrai que là, on est époustouflé par tout ce qui s'est passé de la part de ces femmes et pour ces femmes et comme ces femmes, de tous les côtés d'ailleurs. On vous connaissait évidemment romancière, j'avais adoré certains de vos livres, et vous êtes aussi documentariste. Et là, vous nous livrez un récit qui est absolument. Je préviens nos lecteurs et ceux qui regardent l'émission sur YouTube. Il est très gros. Il fait 600 pages. Mais d'abord, on n'est pas obligé de le lire tout d'un coup. On peut lire par morceaux. Et ensuite, ça se lit comme ça, comme un roman. C'est vrai que moi, j'ai eu du mal à le lâcher parce qu'on veut toujours en savoir plus. Donc, ne vous effrayez pas de la grosseur et de la lourdeur du livre. Je pense que tout le monde doit avoir ça dans sa bibliothèque. Voilà.
C'est oui, comme ça fait partie Lévy, des livres c'est qu'il faut garder.
Il faut avoir ça dans sa bibliothèque. Voilà. La première question que je voudrais vous poser, donc, c'est, vous avez fait un récit chronologique. On commence par la création d'Auschwitz en 42, d'accord? Oui. Comment ça se passe?
Non. Du camp des femmes.
Du camp des femmes, bien sûr, oui. Bah oui, parce que là, je suis complètement dans le camp des femmes. Et donc, vous avez fait un récit chronologique. Alors, c'est un choix qui est très intéressant, mais qui est en même temps, oui, c'est un choix, parce que vous auriez pu prendre, par exemple, des faits, de tout ce qu'on sait. Bon, on va parler des expériences médicales, on va parler de tout ça. Mais non, vous avez préféré. Pourquoi? Parce que vous racontez, par exemple, l'arrivée de groupes de femmes. Et ça, c'est chronologique. C'est pour ça que vous avez choisi ce point de vue?
Pas simplement pour ça. Alors, je vous remercie de me poser cette question qui est absolument essentielle. Le camp des femmes, n'est pas le même en 1942 au moment de sa création, ni en 1943, ni en 1944. Et je vais m'expliquer. D'abord, la fondation d'Auschwitz, elle date de mai 1940. Donc les SS décident de regrouper dans cette partie de la Pologne les militaires polonais et les hommes de la résistance polonaise. Et donc, de mai 1940 à mars 1942, c'est un camp d'hommes, essentiellement, terrible, bien sûr, où il y a très peu de juifs qui ont été incarcérés. Et vraiment par hasard, parce que, au hasard des chaudrons. Le chaudron, c'est une arrestation dans la rue. Et ceux-là, ces juifs-là, d'ailleurs, il y a tout un travail qui est en train de s'accomplir sur ce sujet. Ces juifs-là, qui étaient très peu nombreux, sont envoyés immédiatement dans la prison du camp qui s'appelle le bloc 11. Ils sont tués à la tâche, et dès que d'autres juifs arrivent, ils disparaissent.
Oui.
D'accord? En mars 1942, Himmler, qui est l'un des architectes de la Shoah, et l'un des plus importants, décide de faire arriver les juifs des territoires occupés à Auschwitz-Birkenau. Il avait pensé à Ravensbrück, mais c'est absolument impossible. Donc, il décide de les déporter. Mais ce qui est fou, et ce que j'apprends, c'est que on commence par la Slovaquie. Donc, il contacte Tuka, qui est à ce moment-là le chef du gouvernement slovaque, et ils vont manigancer une chose terrifiante. c'est qu'ils vont demander aux communautés juives de Slovaquie, qui sont des juifs la plupart orthodoxes, sauf à Bratislava, qui est une ville cosmopolite, de leur confier leur jeunesse de 15 à 25 ans, tous célibataires, pour qu'ils puissent travailler pour aider la force de, le pays slovaque qui est à genoux parce que occupé par les Allemands. Et c'est comme ça qu'ils vont décider, avec cette manœuvre, avec ce mensonge, à pousser les familles juives à se séparer de leur jeunesse, parce que s'ils avaient fait des rafles dans la rue, peut-être qu'il y aurait eu un mouvement de foule, peut-être que même que les Juifs auraient pu se douter de ce qui se tramait et organiser une résistance. En leur demandant leur jeunesse et leurs enfants, parce que leurs adolescentes et leurs adolescents, puisque en fait, ça devient... On se laisse faire, on se dit, bah oui, on va aider le pays, on va les envoyer dans des fermes, dans une chocolaterie. On va les envoyer travailler dans l'usine Bata. C'est le premier convoi.
Bata, oui. Mmh.
Le convoi des premières femmes a été supposé envoyé à l'usine Bata. Donc, il rassemble 999 juives de 15 à 25 ans. Certaines familles se doutent qu'il se passe quelque chose, elles envoient leurs filles en Hongrie. On prend les mères à la place. Et on organise le premier convoi qui doit partir à Auschwitz. Alors, Auschwitz, c'est un problème, parce que Rudolf Höss se retrouve, lui qui a 30 blocs, c'est-à-dire trois allées de blocs, comment recevoir les femmes? Il n'en veut pas des femmes, parce qu'il sait que les hommes qui ont été incarcérés sont sans femmes depuis 2 années, déjà, et il se dit, ça va mettre le feu aux poudres. Alors, Rudolf Höss a une idée, il va construire un mur pour séparer une des allées des deux autres allées qui ont été qui sont accordées aux hommes. Il va créer une porte indépendante et c'est ainsi que le matin du 26 mai arrive
26 mai 42.
Oui. 26 mars 42.
Ah, 26 mars,
26 mars 42 arrive à Auschwitz 2 convois. Le premier convoi arrive de Ravensbrück. Ce sont des femmes qui ont été incarcérées, certaines, depuis 1934. Pourquoi ? Elles sont témoins de Jéhovah. Et elles refusent d'arrêter de produire des documents ou de transmettre des documents de la secte. Elles ont fait Moringen, elles ont fait la forteresse de Lichtenburg, elles ont été envoyées à Ravensbrück, et là, elles sont envoyées à Auschwitz. Il y a des antifascistes communistes. Elles ont fait Moringen, elles ont fait Lichtenburg, elles ont fait Ravensbrück, elles arrivent à Auschwitz. Et il y a des criminels de droit commun et des filles qui, pour un vol de bicyclette ou pour avoir apporté une bouteille de schnapps à leur amant et de les avoir reçus dans leur appartement, ont été arrêtées par la Gestapo. Donc voilà, ce premier convoi qui arrive le matin, en fait, il a une mission. Il est dirigé par Johanna Langenfeld, qui était la commandante du camp de Ravensbrück, et il doit être, toutes ces femmes doivent être les capots de toutes celles qui doivent arriver à Auschwitz. Voilà. Et à midi et demi, j'apporte le document qui le prouve, à midi et demi arrivent les Juifs, le premier convoi des Juifs slovaques. Alors, la situation est la suivante. Auschwitz va commencer à fonctionner, mais les gazages vont se dérouler à bas bruit. C'est-à-dire que au début, on accepte tout le monde, toutes les femmes. Mais il va y avoir, au fil des convois slovaques, des mères avec des enfants. Celles-là, elles vont être enfermées dans une baraque, dans une des casernes, et elles disparaissent. Les Allemands d'antifascistes vont essayer de prévenir les Juifs en leur disant « Attention, elles sont tuées. » Et même, elles prononcent le mot de « gazer ». Et j'apporte le témoignage d'État d'une petite de 16 ans, Etta Zimmerspitz, qui travaille dans le Canada où...
Rappelez-nous ce que c'est que le Canada.
Ce sont des chiffonnières qui ouvrent les valises. Il faut savoir que l'Allemagne est sous les bombes des Anglais. Et donc, on a besoin de vêtements, on a besoin de layettes, on a besoin de d'accessoires. Les valises des Juifs vont servir à renflouer les familles allemandes qui ont besoin de vêtements. Qui ont besoin. Donc, ces chiffonnières-là vont commencer par renifler les vêtements. Elles essayent de sentir l'odeur du gaz, parce qu'elle est caractéristique, cette odeur de gaz. Et elles ne la retrouvent pas. Et donc, elles pensent au début que c'est un vaste mensonge. Jusqu'au moment où les faits vont arriver. Donc, en fait, la première installation des femmes se déroule dans le camp d'Auschwitz, et très vite, elles sont rejointes. Donc, on est. Et c'est important, le matricule. Au début, elles ne sont pas tatouées, les femmes. Elles reçoivent juste un morceau de carton.
À quel moment elles sont tatouées, alors?
Alors, justement, je vais le dire. Donc, elles reçoivent un morceau de carton avec leur matricule. On sait que, à partir de 6800, les résistantes polonaises arrivent. Et elles sont suivies ensuite par les convois de France. Le premier convoi de femmes déportées de Drancy, c'est le convoi numéro 3, dans lequel il y a une femme très importante qui s'appelle Raya Kagan et qui va écrire, juste après la libération, un livre très important, qui s'intitule « Les femmes dans l'enfer d'Auschwitz-Birkenau ». Voilà, qui a été traduit il y a 2 ans par Serge Klarsfeld, mais moi je l'ai lu en hébreu, et évidemment, puisque en fait, en travaillant sur les archives, j'étais obligée d'essayer de traduire tout ce que je pouvais trouver.
Alors justement, à partir des archives, des témoins, comment est-ce que vous avez procédé?
Alors, donc, je termine juste sur les emplacements. Ensuite, le camp des femmes va se déplacer à Birkenau, là, en août 42. Là, elles vont être tatouées. Et il va y avoir ensuite un dédoublement de camp, du camp des femmes. Il va y avoir 2 camps, et j'explique pourquoi. Et c'est très important, parce que jusqu'en avril 43, toutes les Aryennes sont gazées, sauf les Allemandes et les Autrichiennes. Mais Himmler va donner un ordre, les gazages, c'est terminé pour les femmes Aryennes, et donc il faut les caser. Et donc on crée un camp hôpital. Elles vont y mourir, ces femmes. Elles sont laissées sans soins. Mais elles ne sont pas envoyées au gazage, il y a une sélection naturelle. Et enfin, il y a un troisième camp qui va s'organiser lorsque, en mai 1944, les Hongrois arrivent. Et donc, il faut caser ces milliers de femmes hongroises qui vont être laissées sans eau et très peu nourries dans ce qu'on appelle le B3, c'est-à-dire le Mexico. Pourquoi le Mexico? Parce qu'elles vont être laissées nues, et ce sont les hommes qui vont leur envoyer des couvertures par-dessus les grillages, les clôtures. Elles vont y faire un trou. Elles vont enfiler cette couverture par la tête.
Ah oui, ça fera comme un poncho.
Comme un poncho, le camp devient le camp Mexico. Donc, c'était très important de comprendre que l'organisation du camp des femmes va subir des transformations.
Voilà pourquoi vous l'avez fait de façon chronologique. Et ça, vous m'éclairez, parce que c'était un choix d'écriture qui était très intéressant. Donc voilà pourquoi, et c'est ça qui, et ça nous aide beaucoup dans la. Moi, je me rappelle, je faisais des petits schémas avec mes, quand j'ai lu, avec les dates, parce que comme ça me faisait des, l'arrivée des filles de Ravensbrück, l'arrivée des Hongroises, etc. Et ça, c'était très chronologique. Donc on y est, enfin, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
Non, Lise m'avait posé une question.
Oui, j'ai posé une question.
Il y a tellement
de choses
à dire, mon Dieu.
Oui, la question que j'ai posée, justement, c'est comment vous avez procédé à partir des témoins, des documents, etc.
6 ans de travail,
ça c'est 6 ans de travail, c'est énorme.
Donc ça, c'est une question extrêmement importante. En 2015, je tombe sur un petit document qui raconte que 4 femmes ont été pendues en janvier 1945 pour avoir apporté de la poudre explosive aux Sonderkommando et avoir aidé le Sonderkommando à faire sauter les crématoires. Je publie ça sur Facebook. Les clics arrivent très vite. Personne ne connaissait cette histoire.
Mais non, personne.
Mais donc je me dis, mais enfin, là, il faut chercher quelque chose. Comment je vais procéder? Parce que Auschwitz, je connais. J'ai été 2 fois à Auschwitz-Birkenau. J'ai filmé Auschwitz-Birkenau pour lorsque j'ai fait le film sur Térésine et sur le bloc 31 des familles tchèques, mais où ça se passe? Comment on comprend cette histoire-là? Donc, je me suis dirigée évidemment vers les vidéos de Spielberg et de l'USHMM et j'ai commencé à écouter des femmes en essayant de voir qui pouvait me parler de Rosa Robota, la chef du réseau des femmes.
Quel personnage.
De la poudre explosive. C'est compliqué parce que chaque femme dans ce camp qui devient mais vraiment immense, on lui demande de ne parler que des choses qu'elle a vues et des choses dont elle peut témoigner et pas le oui dire. Donc en fait, nous n'avons qu'une petite parcelle de l'histoire et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé dans ce camp. Donc je me dirige à ce moment-là, tout d'un coup, Internet publie les minutes des procès de Cracovie qui s'appelle Chronicle of Terror et les minutes sont à la disposition de tout le monde. Les minutes du procès de Francfort et les minutes de Bergen-Belsen et les minutes de Nuremberg. Et je me dis, allez, vas-y, traduis-moi tout ça. Et donc, c'est pour ça que ça a été aussi long. Donc, j'ai traduit toutes les dépositions. Je les ai classées. Chaque fois que quelqu'un me disait, je suis cuisinier, j'ouvrais un dossier cuisine. Quelqu'un me disait, j'ai été au Canada, j'ai travaillé Canada, etc. Secrétaire. Et donc enfin, peu à peu, l'architecture du camp des femmes et des hommes commence à apparaître et à se dessiner. Au fur et à mesure des dépositions de ces grands procès qui s'organisent, bien sûr, avec Eichmann. Et peu à peu, je retrouve des noms qui reviennent. Raya Kagan a témoigné au procès Eichmann, elle a témoigné au procès Francfort, elle finira sa vie complètement mutique pendant 13 ans, les 13 années de sa vie, et dernières années de sa vie, elle ne parlera plus parce que elle a témoigné à Francfort et elle a vu que Schaubert, qui était son responsable, il est libéré, tout simplement. Elle comprend que ça ne sert à rien. Adélaïde Oval va subir exactement les mêmes choses. Donc, peu à peu, on comprend que, oui, les procès servent parce qu'ils donnent des dépositions, mais très peu de SS vont être
punis à la hauteur de leur
effet. Punis à la hauteur de leur crime.
De leur crime.
Et à Bergen-Belsen, à Cracovie, la plupart des SS sont condamnés à mort. Et puis ensuite, c'est fini.
Mais oui.
Donc voilà. Donc, il y a eu, évidemment, les grands procès. Et on trouve les matricules de ces femmes inscrits dans les procès de Francfort, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais j'ai compris que là, les matricules signifiaient quelque chose. Il faut savoir que Auschwitz-Birkenau, c'est le seul camp où on va tatouer. Il faut savoir que ce tatouage, il est chronologique et continu. C'est-à-dire que une femme qui arrive le 26 mars 1942, elle a un certain tatouage, et puis qu'ensuite, les nombres vont croissant. Donc, savoir, le tatouage permet de savoir exactement
c'est formidable, de dater... C'est ce que disait Marceline Loridan. Oui.
De oui, dater oui. La date exacte de la descente du train, parce que les femmes, finalement, dès qu'elles arrivent, elles sont tellement déshumanisées, choquées d'avoir la tête rasée, d'avoir des fouilles corporelles pour certaines, de recevoir des loques, elles perdent la notion du temps. Et dès leur arrivée, jusqu'à si elles ont la chance d'avoir été libérées, elles ne savent plus exactement la date à laquelle les choses se sont passées. Et donc, c'est très important d'avoir le matricule.
Et on apprend énormément de choses, comme ces femmes qui allaient chercher qui allaient voler la poudre. C'est ça, je connaissais absolument pas cette histoire. Mais tu te rends compte qu'elle devait prendre un film, comme une petite cuillère à café de poudre à chaque fois pour ne pas se laisser prendre. Et cette poudre a marché. Enfin, ça a vachement aidé la résistance, entre guillemets. Et vous racontez aussi, que le crématorium 4 a été partiellement détruit.
Oui, mais il a explosé. Et d'ailleurs, j'apporte le témoignage des pompiers qui ont été prisonniers, qui ont été appelés à éteindre le feu. Il faut savoir que de toute façon, les SS, ils se mêlent très peu des choses.
Oui, oui, c'est ça.
Oui. Ils délèguent. Voilà. Ça, on l'a toujours
su. On aurait parlé avec vous pendant 2 heures, on a parlé de rien. Parce que je voulais vous parler
et on a parlé de
Samuel,
tout en même temps.
Du docteur Samuel. Enfin, on voulait parler des expérimentations qui se passaient à Auschwitz et les petits faits quotidiens, les petits gestes quotidiens de.
Il faut lire le livre.
Alors oui, voilà. En fait, il faut. Et puis vous allez revenir.
Bah, écoutez, je veux bien. Et surtout, il faut. Comprendre que les silences sont tels dans le camp d'Auschwitz que certaines personnes ont été accusées après la guerre, voilà. Comme le docteur Samuel, d'expérimentations sauvages sur les femmes, puisque il était appelé dans le bloc 10 à opérer ces femmes. Et on s'aperçoit que, en fait, il les a sauvées en silence.
Alors, ce sera le mot de la fin. Les femmes d'Auschwitz-Birkenau, Shoshana Boukobzach et Flammarion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Maya.
Merci.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal. 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kassib Kojazor ? Donnez maintenant au Kassib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kassib.fr. Avec le Kassib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Le 10-11 de Lise Goodman vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J à 11h sur RadioJ.fr et DAB+. Vous retrouverez le journal d'Eva Soto à 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J, une édition spéciale en direct au plus près de la guerre en Israël. Steve Nadjar recevra la journaliste israélienne Rina Bassiste. Vous écouterez également les chroniques de Pascal Zonshine depuis Jérusalem, d'Arié Ben Simoun et de Franck Tapiro. Rejoignez-nous donc à partir de 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et l'application Radio J. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau 10-11. Merci à Serge Surpin à la réalisation technique et tout de suite, comme tous les matins, l'espoir, Hatikva.
Nefesh Yehudi Homiya Ulfatei Mizrach Kadima Ayin Lezion Tzofiya Hatikva bat shnot alpayim liyotam chofshim be'atzeinu eretz tzion v'yerushalayim liyotam chofshim So
écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J, réveillez l'informé qui est en vous.